era peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes, tu es prêt ?
En selle.
Alors pour commencer, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui, c'est le mot couard, C-O-U-A-R-D. Alors, Jean-Yves, en hippologie, que signifie le mot couard, hein ?
Ben, plutôt char, hein, un cheval qui a un peu de, qui a du stress, qui est pas tranquille, et qui, à la moindre bruit insolite, fait des écarts ou est inquiet.
Alors, justement, mais alors, c'est intéressant parce que le couard aussi, c'est la partie de la queue du cheval, à l'attache de la queue, en haut des fesses, qui est dépourvue de poils. En dessous, on appelle ça le couard.
C'est là où repose la croupière.
Là où repose effectivement la croupière, il n'y a pas de poils, c'est une peau qui est même assez fragile, il faut faire attention en mettant la croupière. Et alors, le mot couard vient du mot queue, en réalité, imagine-toi. Et ce mot, on le retrouve à la fin du XIe siècle sous la forme de coué ou de coé, pour donner le mot couard dans le sens qui a la queue basse, qui a la queue basse, et de là se forment les mots couard, d'où dérive, comme tu l'as bien dit, la couardise.
Et quand un cheval a peur, il abaisse sa queue, il serre les fesses, il abaisse la queue, et il abaisse la croupe aussi.
Exactement, et un peu comme le chien aussi.
Voilà.
Alors toi qui étais chasseur, est-ce que aussi cette partie de la queue chez le chien on l'appelle le couard?
Ah là, je peux pas dire, je peux pas savoir.
Ah ben alors écoute, si un auditeur a la réponse,
oui,
qu'il nous écrive,
qu'il nous téléphone,
voilà.
Qu'il nous écrive.
Voilà.
On sera très heureux de l'apprendre.
On sera très heureux de l'apprendre, absolument. Alors, dans nombre d'émissions, le messager du cheval a évoqué Xénophon et a puisé dans l'œuvre de ce grand philosophe, historien et cavalier grec, les fondements d'une série de principes toujours utilisés aujourd'hui et que celui-ci avait édicté il y a 24 siècles, dans l'art de bien choisir, éduquer, utiliser au mieux le cheval. Mais revenons un instant sur ce personnage incontournable à qui l'on doit sans doute le premier traité majeur d'équitation qui soit parvenu jusqu'à nous.
C'est que Xénophon a eu vraiment des propos très, très intéressants au niveau d'équitation, et notamment celui-là. Il faut que le cheval se plaise dans son air. Et là, il y a tout un volume, un paquet de choses à dire, parce que c'est important.
C'est important.
Qu'il se plaise avec son cavalier, qu'il se plaise dans son air.
Alors, Xénophon naît vers moins 430 en Grèce, dans une famille aisée, et installé dans le dème d'Erchia, près d'Athènes. Le dème, disons, on va dire, c'est un petit peu un canton. On appellerait ça maintenant un canton, en quelque sorte. Alors, comme beaucoup de jeunes gens riches de cette époque, il bénéficie d'une solide formation intellectuelle et suit en particulier les enseignements de Socrate. Et il en devient vite l'un de ses principaux disciples. Donc, il a une formation qui est quand même importante. Alors, politiquement, la situation est difficile. La guerre du Péloponnèse entre Athènes et sa rivale Sparte vient de s'achever à l'avantage de cette dernière qui impose à sa rivale vaincue l'humiliant gouvernement dit des 30 tyrans. Alors nous sommes en moins 404. Donc bon, Sparte demande à 30 tyrans finalement, nomme 30 tyrans pour diriger la ville d'Athènes. Alors un an plus tard, Athènes recouvre sa liberté, renverse les 30 tyrans et rétablit sa démocratie. Alors partisan de Sparte, Xénophon est hostile à la restauration de cette démocratie. Il n'en veut pas, il trouve que ça ne va pas.
Mais c'est tyran, c'est parce que quoi, il y a peut-être de la tyrannie. Pourquoi c'est tyran?
C'était un pouvoir autoritaire qui effectivement imposait un petit peu ses vues devant la population. La population, enfin tout le monde n'avait pas le droit de vote, si je puis dire, à cette époque-là. Hein. C'était juste les gens...
Les privilégiés
d'une classe sociale privilégiée. Alors à la même période, l'Empire perse vit également des moments politiques turbulents. Cyrus le Jeune tente de détrôner son frère, le roi Artaxerxès II, avec le concours de troupes spartiates et de mercenaires grecs, et que l'histoire retiendra sous le nom d'expédition des 10 000. Et en fait, ils étaient 13 600, un petit peu plus que 10 000. Alors tout naturellement, Xénophon se joint à cette exposition, dont il devient assez vite l'un des 5 généraux. Donc ça va vite. Il a 29 ans. L'opération tourne au désastre quand Cyrus est vaincu et tué à la bataille de Cunaxa en moins 401. Donc ça, vraiment, c'est un véritable désastre, quoi. Ça, rien ne marche comme Xénophon et les Grecs le pensaient. Alors l'armée mercenaire grecque en retraite se trouve alors livrée à elle-même et n'a plus qu'une seule priorité, rejoindre au plus vite la Grèce. Effectivement, donc ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils essayent de rejoindre la Grèce. Alors elle y mettra plus d'une année. Donc ils vont errer à droite, à gauche, ils sont guidés par personne et ils savent pas trop où aller. Et enfin, dit l'histoire ou la légende, je ne sais pas, quand ils trouvent enfin, ils arrivent enfin sur les bords de la Méditerranée ou de la mer Noire, on ne sait pas trop, les soldats grecs se seraient écriés « Oh, Thalassa, Thalassa, la mer !» Parce que bon, ils avaient été dans la steppe et le désert pendant une année et ils étaient contents pour des Grecs, effectivement, de voir la mer. Et alors, Xénophon relate cette expédition fameuse dans un récit qu'il nommera « l'Anabase ». Quand je faisais mes études au lycée en grec ancien, j'avais essayé de traduire avec mes petits copains. Ouf. Alors, de retour en Grèce, en moins 399, Xénophon est condamné à l'exil par Athènes. Il décide de rester au service de Sparte, à telle enseigne que, 3 ans plus tard, il accompagne son roi Agésilas dans une nouvelle campagne militaire en Asie mineure. Donc, la première l'avait pas guéri, donc il repart. Et ce sera quand même pour lui la dernière. Alors, quelques années après son retour en Grèce, de nouveau, il reçoit de Sparte un domaine en Élide, qui est une province au nord-ouest du Péloponnèse, où il s'installe avec sa femme et ses deux filles. Il y restera jusqu'à sa mort, qui intervient une vingtaine d'années plus tard, vers moins 355, à l'âge de 75 ans, donc ce qui était pas mal pour l'époque, hein, 75 ans, et il occupe sa retraite à écrire de nombreux ouvrages, parmi lesquels son fameux traité de l'équitation, qui sera le sujet donc d'aujourd'hui. Alors pendant ces deux campagnes militaires en Asie, Xénophon avait acquis une solide expérience des chevaux perses, et eut loisir...
Oui, c'était des perses.
Oui, perse.
Mais d'origine barbe, quand même.
Et justement, c'est ce qu'on va voir. Ah oui. Des chevaux perses, il eut loisir d'observer leur utilisation et leur équipement. Donc, il les a vraiment bien étudiés. Il avait en particulier remarqué leur aptitude à descendre les pentes les plus raides au grand galop de charge, hein, vraiment à fond, pourtant, ouais. Sans broncher, donc un équilibre, une adresse extraordinaire. Mais également, il avait remarqué les protections dont ils bénéficiaient par de larges frontaux en cuir ou encore des poitrails et des cuissards matelassés. C'est-à-dire que bon, les Grecs montaient sur des chevaux, ils mettaient un tapis, grimpaient dessus, et puis voilà, eux étaient équipés. Il existait déjà un traité d'équitation rédigé une dizaine d'années avant la naissance de Xénophon par un hipparque grec du nom de Simon, que du reste Xénophon a connu, donc, mais Simon était plus âgé que lui, bien sûr, et dont seuls quelques fragments nous sont parvenus. À la différence du traité d'équitation de Xénophon, Simon, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Xénophon, donc, qui le connaissait, l'appréciait, s'y référa à maintes reprises dans son propre traité. Et alors, c'est formidable, parce que quand on lit son traité, hein, de l'équitation, souvent, il cite Simon, et on sent qu'il a beaucoup d'admiration pour ce que cet hipparque avait dit à l'époque, qui lui aussi avait une expérience en tant qu'hipparque, forcément, d'équitation militaire. Alors, c'est ce que nous allons voir maintenant, après une pause musicale, Alain Bashung, Osez Joséphine.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce drap, à qui sourit la vie. Marchez sur l'eau, évitez les péages. Jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
qu'il est dur, que les moments doux, dur que les moments doux. Et qu'il est dur. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez.
Alors d'abord, comme le conseille Simon, donc cet hipparque, Xénophon commence l'examen du cheval par le bas et non par le haut, à la différence de ce qui était alors préconisé par la plupart des cavaliers grecs ou latins de l'époque. En premier lieu...
Tous les grands marchands de bestiaux savent faire ça. Et quand ils présentent un cheval, ils le présentent d'en bas pour l'élever. On ne prend jamais une photo d'un cheval, on ne photogramme jamais un cheval par en haut, parce que sinon... On le rend bouboule, on le rend rond. Alors que quand on le prend en bas, on le monte.
On le monte, hein. D'accord. Alors, en premier lieu, il convient de s'intéresser aux pieds par l'examen de la corne des sabots. Et Xénophon la veut épaisse et haute de façon que la sole du cheval ne soit pas en contact avec le sol. Alors, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, d'abord, c'est des sabots noirs. Les sabots noirs, les cornes noires, beaucoup plus épaisses, beaucoup plus dures et beaucoup plus fermes que la corne blanche. En principe, les chevaux qui ont une corne blanche ne sont pas faciles à ferrer et ne tiennent pas bien les fers. Alors que les autres tiennent bien mieux.
Alors ensuite, il préconise que le pâturon ne soit pas trop droit, un peu comme celui des chèvres. Alors selon lui, des pâturons trop droits non seulement fatiguent le cavalier, mais aussi sont sujets à inflammation. Et enfin, les pâturons ne doivent pas être trop courts, car dans ce cas, les boulets, surtout ceux des postérieurs, risqueraient de se blesser sur les pierres du chemin. Alors qu'est-ce que tu penses de cette proposition de Xénophon là ?
Oui, bon, c'est vrai que le canon ne doit pas être très 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 long, il doit être court, on appelle ça brassis court. Et il a plus de force, le cheval a plus de force, et puis il a plus d'allant. Alors que l'autre, il est un peu plus genou de bœuf. On dit genou de bœuf quand le genou rentre en dehors du canon, on l'appelle le genou de bœuf.
Genou de bœuf.
Et c'est pas très bon.
Et ça n'est pas très bon, oui. Et ça n'est pas très bon parce que le cheval, évidemment, mécaniquement s'use, enfin,
voilà,
plus rapidement.
Voilà, il s'use, et puis
oui.
les articulations travaillent pas dans le bon sens.
D'accord. Alors, il dit aussi, les os des canons, des avant-bras et des cuisses doivent être épais. Cette épaisseur doit provenir des os et non des veines et de la chair, car, le souligne Xénophon, donc, ce sont eux qui supportent tout le poids comme les fondations soutiennent la maison. C'est un peu la version du colosse de Rhodes dont la solidité ne vaut que l'argile de ses pieds.
L'important, c'est les jarrets aussi. Parce que le cheval pousse avec ses postérieurs, avec ses jarrets. Donc, il faut des jarrets très, très forts pour les pirouettes, pour les départs rapides, pour les arrêts rapides. Donc, des jarrets très, très forts et écartés, non pas serrés.
Et écartés, non pas serrés. Alors, ce qui est très, très curieux dans ce traité, c'est qu'à aucun moment, il ne parle de tendons.
C'est vrai, alors que le tendon c'est important.
Très, très important, bien sûr.
Le claquage c'est la fin du cheval. Et donc il faut préserver les tendons. Et puis il faut surtout s'inquiéter beaucoup des tendons. Sur le pansage, quand on fait le pansage, toujours il faut passer ses doigts, voir si le tendon n'est pas chaud ou s'il n'y a pas une petite enflure. Donc il faut que le tendon soit sec et sain.
Sec et sain. Alors, on continue. Plus le poitrail est large, plus le cheval est constitué pour la force et la beauté, et mieux il porte les antérieurs sans les croiser.
Ah oui, mais il ne doit pas croiser des antérieurs. Au contraire, il doit marcher en s'étendant vers l'avant. Le cheval qui s'étend, il se met juge. Il a l'empreinte des postérieurs qui passe en avant de l'empreinte des antérieurs, mais il va droit devant et il étend son geste.
Et il étend son geste. Alors, Xénophon veut aussi que les reins soient larges et courts. Plus le cheval est comme cela, cette conformation, plus il a des facilités de lever son avant-train et engager ses postérieurs.
Et plus il est solide.
Et plus il est solide. Alors là, tu es d'accord avec Xénophon?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Moi, d'accord. J'ai beaucoup d'admiration pour Xénophon. Il y avait des traités, il a des choses qui sont très intéressantes.
On sent que c'était un cavalier qui était très, très au courant, il savait de quoi il parlait.
Il était observateur et puis il connaissait bien les chevaux.
Alors, les postérieurs aussi doivent être écartés, dit Xénophon. Le cheval aura plus de force et de fierté dans son aplomb et ses allures. Et quand un homme veut soulever quelque chose de lourd à terre, c'est toujours en écartant les jambes plutôt qu'en joignant les pieds qu'il essaye de le faire. Alors, les postérieurs écartés.
Oui, les postérieurs et les jarrets écartés.
Écartés, oui.
De manière à avoir un engagement plus prononcé.
Comment on appelle un cheval ? C'est un cheval serré, un cheval qui a les membres qui sont presque à touche-touche. Moi, on me disait, par exemple, que pour...
Oui, pour avoir les jarrets serrés ou les jarrets écartés.
Oui. On me disait qu'un bon cheval, c'est un cheval dans lequel on pouvait mettre entre les antérieurs, sous l'arse, les deux mains étalées, comme ça, bien à plat.
Oui, il y a plein de dictons.
Il y a plein de dictons, voilà, c'est ça, d'accord. Alors, un garrot élevé, dit Xénophon, offre au cavalier une assiette plus sûre et une adhérence plus ferme aux épaules de l'animal. Alors, n'oublions pas que les Grecs montaient à cru, hein, quand même.
Oui, alors donc, un garrot pas trop proéminent, parce que monter à cru sur un garrot proéminent, c'est il vaut mieux un garrot un peu noyé dans la masse, quand même.
Oui, on sait moins mal. Hein. Ouais. Alors, il parle du cou, et il dit il doit s'élever verticalement, comme celui d'un coq, mais grêle à la courbure. Et il rajoute, alors le coup protégera le cavalier, donc un coup épais, protégera le cavalier, le cheval, à la guerre protégera le cavalier, et le cheval verra ce qui est devant ses pieds.
Mais surtout un chignon bien développé aussi, de manière à ce que le cheval puisse bien rouer son encolure, alors que le contraire, s'il remonte son encolure et s'il est à l'envers, on aura des difficultés à le mettre dans la main, à le placer.
D'accord, le chignon c'est le sommet du crâne de...
Non, le chignon c'est l'encolure.
C'est l'encolure.
C'est après le garrot.
C'est après le garrot, c'est ce qu'on appelle, c'est le dessus.
Voilà, ça part du garrot et ça va jusqu'à la tête.
Alors, il dit, la tête doit être osseuse et la mâchoire petite et sensible. Le cheval ainsi conformé ne forcera jamais la main, car ce n'est pas en courbant son encolure, mais en tendant le cou et la tête, que les chevaux essayent d'avoir raison de leur cavalier, c'est-à-dire de résister, de prendre le mort aux dents et d'envoyer...
Mais c'est surtout en fermant la mâchoire et puis en tirant vers le bas ou vers le haut, parfois aussi, que les chevaux entraînent et embarquent leur cavalier.
C'est cela, voilà. C'est
quand
ça,
ils sont dans la défense.
Quand ils sont dans la défense, bien évidemment.
Mais quand ils acceptent, quand ils donnent la bouche, ils disent oui. Donc ils roulent en colure et ils donnent la bouche, ils cèdent dans la mâchoire.
Alors,
sans lâcher la main.
Sans lâcher la main, bien sûr.
Oui, bien sûr. Il reste dans la main.
Il faut qu'il reste dans la main.
Il y a trois façons. Il y a dans la main, il y a en dessus de la main, le cheval qui ferme la mâchoire et qui lève la tête en l'air et qui échappe par en haut, et en dedans de la main, quand il lâche la main, donc il se met complètement en dedans.
Donc il peut avoir une défense par au-dessus la main et par en dessous la main.
Par en dedans.
Voilà, c'est ça, par en dedans.
Il faut qu'il reste dans la main. À l'écoute.
Alors pour l'œil, Xénophon le veut saillant pour qu'il paraisse vif, plus vif en tout cas que l'œil enfoncé, et selon lui un œil saillant permet au cheval d'avoir une vue plus étendue.
Oui, peut-être, oui. On prétendait que les chevaux étaient myopes, qu'ils ne voyaient pas beaucoup. Mais moi, je suis persuadé qu'ils voient de très loin, parce que quand on va les chercher avec un seau, ils arrivent plus facilement, même s'ils sont loin, que sans rien.
Que quand on vient avec le licol, oui. Souvent même, le truc qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, qui ont des problèmes pour récupérer leur cheval au pré, c'est de bien planquer le licol dans le seau.
Dans le dos.
Voilà, ou dans le dos. Voilà, ça, c'est un truc. Mais les chevaux sont malins, ils sont à avoir une ou deux fois, et puis ensuite ils ont compris.
Mais il y en a qui aiment le licol, il faut qu'ils aiment le licol.
Oui, il faut qu'ils aiment le licol, et qu'ils aient des bonnes raisons d'aimer le licol.
Il ne faut pas qu'ils le détestent.
Voilà. Enfin, Xénophon dit que les naseaux doivent être ouverts pour qu'ils favorisent la respiration et donnent au cheval une expression plus terrible. On est toujours sur un cavalier de guerre.
Désir de guerre, oui.
Voilà. Et en effet, c'est vrai que quand un cheval entre en fureur contre un autre cheval ou qu'il s'anime à la course, il ouvre davantage les naseaux, ça on le voit.
Oui, mais les chevaux se battaient autrefois comme les gens, hein. Ils étaient éduqués à ça aussi. Donc, quand on était pris par les ennemis devant et derrière, les chevaux faisaient la courbette et attaquaient avec les antérieurs, et ils faisaient la croupade pour se dégager par les postérieurs.
Alors, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure au sujet des barbes, effectivement, quand on voit la description de ces chevaux, on pense et on se rend compte que Xénophon a en tête les chevaux de pur sang arabe qu'il a découverts en Asie, et non les barbes d'Afrique du Nord, comme l'indiquent ses trois derniers conseils. Ça, c'est trois derniers conseils. Quand on voit une tête fine,
petite... Oui, le persan est plus fin. Il ressemble beaucoup plus à l'arabe que...
Et effectivement, c'est logique. À cette époque-là, c'était plutôt des chevaux qui venaient d'Iranien, comme nous avait dit l'autre fois Virginie Bauer, que nous avions qui est spécialiste du cheval oriental. Arabe. Effectivement, c'était plutôt des chevaux qui venaient d'Iran, donc des chevaux, ou d'Inde même, et qui étaient des chevaux orientaux. Hein,
voilà. Très près du pur sang.
Voilà, les descriptions de Xénophon. Et on le voit aussi sur les décorations des amphores, des poteries, etc. C'est vrai que c'est pas le barbe.
On voit des chevaux légers,
On voit des chevaux légers, voilà.
Bien souvent, mais des encolures légères, d'ailleurs, aussi, ce qui est étonnant.
Alors à lire Xénophon, œuvre complète en 3 tomes, traduit du grec ancien par Pierre Chambry, et c'est en édition de poche chez Garnier Flammarion. Alors Jean-Yves, problème avec Élise, Lutin est auprès toujours, et là elle a hérité d'un poney qui s'appelle Dinga. Alors bon,
Dinga,
alors, Dinga, oui c'est le nom du poney, c'est Dinga. Oui, c'est ça. Voilà. Alors elle est un petit peu embêtée parce que ce poney est épouvantable, elle peut pas rentrer dans le box, ou quand elle peut rentrer dans le box, le poney la coince contre un mur, et elle sait pas comment s'en dépatouiller, elle a même un petit peu peur. Et elle te demande, Jean-Yves, comment faire, surtout que Chloé, le palefrenier, c'est une jeune femme, elle peut rentrer, Dinga lui dit rien, alors que Élise c'est pas la même chose, et elle te demande en fait si Dinga n'est pas un poney tout simplement dingo.
Mais non, certainement c'est qu'il a eu une mauvaise impression d'Élise, peut-être, et qu'Élise a été peut-être un peu dure avec lui quand elle l'a monté, mais elle a oublié la récompense. Mais si elle va dans le box avec une récompense, avec une intonation gentille dans la voix, si elle sait faire de la musique et de cajoler, disant « tu es un bon cheval, c'est bien, c'est super, viens, je vais te donner une friandise », ben ça m'étonnerait que le poney refuse et qu'il vienne pas à elle.
Donc tu recommandes à Élise de la patience.
Voilà. De l'amour, de la passion et de la patience. Et puis
amour, passion, patience.
C'est comme ça qu'on crée un désir de communiquer.
C'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure, 12h35, et même adresse pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent de s'y passionner, aujourd'hui non pour s'en servir, mais pour le servir. Bravo Jean-Yves. Sur CFM Rodez 107.9 et sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, d'aigle mort à Rodez, en passant par sa mière, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, Salbiège, milieu du sel, patrie de Béranger, de Landor, capitale du Rouergue de Rodez.